au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Eh bien, chers amis, nous voici réunis une nouvelle fois à Écône pour participer à cette cérémonie si émouvante de l'ordination de prêtre. En effet, s'il est une cérémonie qui nous fait vivre les instants les plus sublimes de l'Église, c'est bien la cérémonie d'ordination sacerdotale. Elle nous rappelle en particulier la scène où notre Seigneur Jésus-Christ a fait de ses apôtres des prêtres. Elle rappelle aussi l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres au jour de la Pentecôte. Et ainsi, l'Église continue. Le Saint-Esprit continue de se répandre par la main du successeur des apôtres. Et nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir conférer l'ordination sacerdotale à 13 nouveaux prêtres. Il n'y aurait pas dû y avoir d'ordination sacerdotale cette année. En effet, les études passaient de 5 à 6 années. Et les conséquences de ce changement devaient intervenir cette année, et c'est pourquoi normalement il n'y aurait pas dû y avoir d'ordination sacerdotale, du moins pour la fraternité. Mais des circonstances particulières, des occasions spéciales ont fait que nous ordonnons donc aujourd'hui 7 diacres de la fraternité et 6 autres qui font partie de diverses sociétés. Frères, sœurs, qui luttent dans le même combat, avec les mêmes convictions, avec le même amour de l'Église. Avant-hier, j'ai conféré l'ordination sacerdotale à 2 membres de la fraternité du district d'Allemagne, ce qui porte donc les ordinations cette année à 15. Nous espérons, avec la grâce de Dieu, qu'à mesure que les années avanceront, le nombre ira en croissant, puisque nos séminaires, particulièrement les séminaires d'Allemagne et des États-Unis, vont nous fournir maintenant les fruits du travail qui a été fait au cours des années précédentes. La première ordination de Richfield en Amérique aura lieu l'année prochaine avec 3 nouveaux prêtres. Nous commencerons à recueillir les fruits du travail qui a été accompli là-bas dans ce séminaire américain. Et il en est déjà de même du séminaire de Zaschkofen en Allemagne, mais le nombre, avec la grâce de Dieu, ira croissant. Nous devons prier pour que le bon Dieu bénisse ces séminaires, fasse en sorte que ceux qui se préparent à devenir prêtres reçoivent vraiment en abondance les grâces dont ils ont besoin. Mes chers amis, vous qui dans quelques instants allez être ordonné prêtre, vous comprenez, je suis sûr, aujourd'hui, plus que jamais, que cette ordination va vous situer au cœur même de l'œuvre de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Par son sacrifice, notre Seigneur s'engager en quelque sorte, par son sacrifice de la croix, à faire des prêtres, à faire partager son sacerdoce éternel à ceux qu'il aurait choisis, pour continuer son sacrifice, source des grâces de la rédemption, car c'est la grandeur de Dieu. C'est pour la rédemption que Dieu a tout créé, qu'il a tout fait. C'est sa grande œuvre de charité, et Dieu est charité, et tout ce qui sort de Dieu est charité. Il a voulu nous diviniser, nous communiquer cette charité immense dont il brûle durant depuis l'éternité. Il a voulu nous la communiquer, il nous l'a communiqué par une manifestation extraordinaire, par sa croix, par la mort d'un Dieu, par son sang répandu. Et il a voulu que des hommes choisis par lui continuent ce sacrifice afin de donner sa vie divine aux âmes, de les guérir de leurs fautes, de leurs péchés et de leur communiquer sa propre vie afin qu'un jour cette vie nous glorifie et que nous soyons glorifiés avec Dieu dans l'éternité. Voilà l'œuvre de Dieu. C'est pour cela qu'il a tout créé, tout ce que nous voyons, tout ce monde qu'il a fait, il l'a fait pour la croix. Il l'a fait pour la rédemption des âmes. Il l'a fait pour le saint sacrifice de la messe. Il l'a fait pour les prêtres. Il l'a fait pour que les âmes puissent s'unir à lui, particulièrement comme victimes dans la Sainte Eucharistie. Il se communique à nous comme victimes, afin que nous offrions aussi nos vies avec la sienne et que nous participions ainsi non seulement à notre rédemption, mais à la rédemption des âmes. Ce plan de Dieu, cette pensée de Dieu qui a réalisé le monde est une chose extraordinaire. Nous sommes stupéfaits devant ce grand mystère que le bon Dieu a réalisé ici-bas. Et précisément, parce que le sacrifice de notre Seigneur est au cœur de l'Église, au cœur de notre salut, au cœur de nos âmes, tout ce qui touche le saint sacrifice de la messe nous touche profondément, nous touche chacun d'entre nous personnellement, parce que nous devons participer à ce sacrifice pour le salut de nos âmes, parce que nous devons recevoir le sang de Jésus par le baptême et par tous les sacrements, et particulièrement par le sacrement de l'Eucharistie, pour sauver nos âmes. Et c'est pourquoi nous sommes si attachés au saint sacrifice de la messe, et que dès lors qu'on veut y toucher pour le rendre, soi-disant, plus acceptable à ceux qui n'ont pas notre foi, à ceux qui n'ont pas la foi catholique. Tous ces changements qui ont été introduits ces dernières années dans ce qu'il y a de plus précieux dans la Sainte Église, dans les réformes liturgiques, ces changements qui ont été opérés l'ont été pour, soi-disant, nous rapprocher de nos frères séparés, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas notre foi. Alors notre cœur a tremblé, nos intelligences aussi, et notre foi s'est émue. Et nous nous sommes demandé, mais est-il possible qu'on puisse réduire cette réalité la plus grande, la plus mystique, la plus belle, la plus divine de notre Sainte Église, la Sainte Église catholique et romaine, la diminuer de telle sorte qu'elle soit mise à la disposition des hérétiques? Nous n'avons pas compris. Et dans cette émotion, nous nous sommes demandé vraiment comment d'éclairs qui se sont introduits dans l'Église, ayant des idées qui ne sont pas celles de l'Église, n'étant pas mus vraiment par l'Esprit Saint, n'étant pas remplis de l'Esprit de vérité, mais de l'Esprit de l'erreur, ont pu monter jusqu'au plus haut sommet de l'Église et nous donner ces réformes qui détruisent l'Église. Quel mystère! Comment est-ce possible? Comment le bon Dieu a-t-il pu permettre cela? Comment notre Seigneur, qui avait fait toutes ses promesses à Pierre et à ses successeurs et à l'Église, et à tous les successeurs des apôtres comment cette réalité a pu se trouver devant nos yeux à notre époque. Jamais peut-être des fidèles au cours de leur existence n'ont eu ce problème à se poser. Bienheureux, les fidèles qui ont vécu avant nous et qui n'ont pas eu ces problèmes à se poser et à résoudre. Alors en quelques mots, je voudrais essayer d'éclairer un peu vos esprits sur ce qui me semble devoir être notre ligne de conduite dans ces événements si douloureux qui interviennent dans la Sainte Église. Il me semble qu'on peut comparer cette passion que souffre l'Église aujourd'hui à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez combien ont été stupéfaits les apôtres eux-mêmes devant notre Seigneur ligoté, ayant reçu ce baiser de la trahison de Judas. Il est emmené, on l'affuble d'une robe d'écarlate, on se moque de lui, on le frappe, on le charge de la croix et les apôtres s'enfuient. Les apôtres sont scandalisés. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que celui que Pierre a proclamé tuer le Christ, le Fils de Dieu, en soit réduit à cette indigence, à cette humilité, à cette avanie. Ce n'est pas possible. Il le fuit. Seule la Vierge Marie, avec Saint Jean et quelques femmes, entourent notre Seigneur. Eux ont gardé la foi. Ils ne veulent pas abandonner notre Seigneur. Ils savent que notre Seigneur est Dieu. Mais ils savent aussi qu'il est homme. Et c'est précisément cette union de la divinité avec l'humanité de notre Seigneur qui a posé des problèmes extraordinaires. Car notre Seigneur n'a pas voulu seulement être un homme, il a voulu être un homme comme nous. Avec toutes les conséquences du péché, mais sans péché. Hormis le péché, mais il a voulu en subir toutes les conséquences, la douleur, la fatigue, la souffrance, la faim, la soif, la mort, jusqu'à la mort. Oui, notre Seigneur a réalisé cette chose extraordinaire qui a scandalisé les apôtres, avant de scandaliser bien d'autres qui se sont séparés de notre Seigneur ou qui n'ont plus cru à la divinité de notre Seigneur. Tout au cours de l'histoire de l'Église, on voit de ces âmes qui, étonnées devant la faiblesse de notre Seigneur, n'ont pas cru qu'il était Dieu. C'est le cas d'Arius. Arius a dit, non, c'est pas possible. Cet homme ne peut pas être Dieu. Sans doute, c'est un surhomme. C'est le premier-né, mais ce n'est pas Dieu. Puisqu'il a dit qu'il était moindre que son père. Que son père était plus grand que lui, il est donc plus petit que son père, il n'est donc pas Dieu. Et puis, il a prononcé ces paroles si surprenantes. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Comment celui qui avait la vision béatifique, qui voyait Dieu dans son âme humaine, et donc qui était beaucoup plus glorieux qu'infirme, beaucoup plus éternel que temporel. Son âme était déjà dans l'éternité, bienheureuse. Et le voici qui souffre et qui dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et qui prononce ces paroles stupéfiantes que nous jamais nous-mêmes nous n'aurions imaginé mettre sur les lèvres de notre Seigneur. Seigneur, Seigneur, pourquoi m'avez-vous abandonné? Mais comment? Comment notre Seigneur, Dieu lui-même, peut-il dire cela? Pourquoi m'avez-vous abandonné? Alors le scandale, hélas, se répand parmi des âmes faibles. Et Arius entraîne presque l'Église tout entière à dire, non, cette personne, ce n'est pas Dieu. Alors d'autres, au contraire, réagiront et diront, mais peut-être que tout ce que notre Seigneur a subi, ce sang qui coule, ces blessures, cette croix, Tout cela, c'est de l'imagination. En fait, ce sont des phénomènes extérieurs qui se sont passés, mais qui n'étaient pas réels. Un peu comme l'archange Raphaël, lorsqu'il a accompagné Tobie, a dit ensuite à Tobie, « Vous croyez que je mangeais lorsque je prenais de la nourriture, mais non, je me nourris d'une nourriture spirituelle. » Ainsi, l'archange Raphaël n'avait pas un corps comme celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'était pas né dans le sein d'une mère terrestre comme notre Seigneur né de la Vierge Marie. Alors peut-être notre Seigneur était-il un phénomène comme celui-là, et que semblant manger, il ne mangeait pas, semblant souffrir, il ne souffrait pas. Et alors ce furent ceux qui nièrent la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, les monophysites, les monothélistes, qui nièrent la nature et la volonté humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout était Dieu en lui, et tout ce qui s'est passé n'était que des apparences. Voyez les conséquences de ceux qui se scandalisent de la réalité, de la vérité. Alors je ferai une comparaison avec l'Église d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes scandalisés, oui, vraiment scandalisés, de la situation de l'Église. Nous pensions que l'Église était vraiment divine et qu'elle ne pouvait jamais se tromper, qu'elle ne pouvait jamais nous tromper. Oui, c'est vrai, l'Église est divine, l'Église ne peut pas perdre la vérité, l'Église gardera toujours la vérité éternelle. Mais elle est humaine aussi. L'Église est humaine, et bien plus humaine que notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas pécher, il était le saint, le juste par excellence. Mais l'Église, si elle est divine, est vraiment divine. Elle nous porte toutes les choses de Dieu, et particulièrement la Sainte Eucharistie, des choses éternelles qui ne pourront jamais changer, qui feront la gloire de nos âmes dans le ciel. Oui, l'Église est divine, mais elle est humaine. Elle est supportée par des hommes qui peuvent être pécheurs, qui sont des pécheurs. Et qui, si ils participent dans une certaine manière à la divinité de l'Église, dans une certaine mesure, comme le pape, par exemple, par son infaillibilité, par le charisme de l'infaillibilité, participe à la divinité de l'Église. Mais cependant, il reste homme, il reste pécheur, et en dehors des cas où il use de son charisme de l'infaillibilité, il peut errer, il peut pécher. Alors pourquoi nous scandaliser et dire comme certains, n'est-ce pas, à l'image d'Arius, dire alors il n'est pas pape. Alors ce n'est pas un pape. Comme Arius disait, ce n'est pas Dieu, c'est pas vrai. Notre Seigneur ne peut pas être Dieu. Et alors nous serions tentés aussi de dire, ce n'est pas possible, il ne peut pas être pape en faisant ce qu'il fait. Et comme d'autres, au contraire, qui diviniseraient l'Église à tel point que tout serait parfait dans l'Église, et que tout étant parfait dans l'Église, il n'est pas question pour nous de faire quoi que ce soit qui puisse s'opposer à quelque chose qui nous vienne de Rome, parce que tout est divin à Rome et que nous devons tout accepter ce qui vient de Rome. Font comme ceux qui disent aussi que notre Seigneur était tellement Dieu qu'il n'était pas possible qu'il souffre, que c'était des apparences de souffrance, mais qu'en réalité il ne souffrait pas, qu'en réalité son sang n'a pas coulé, c'était des apparences que nous avions dans nos yeux, dans les yeux de ceux qui étaient autour d'eux, de lui, mais que ce n'était pas une réalité. Alors il en est de même de certains aujourd'hui qui suivent, en disant non, rien ne peut être humain dans l'Église, rien ne peut être imparfait dans l'Église. Ils se trompent aussi. Ils ne suivent pas la réalité des choses. Et alors jusqu'où peut aller l'imperfection dans l'Église? Jusqu'où peut monter, je dirais, le péché dans l'Église, le péché dans l'intelligence, le péché dans l'âme, le péché dans le cœur et dans la volonté? Eh bien, ce sont les faits qui nous les montrent. De même que je vous disais tout à l'heure, nous n'aurions jamais osé mettre sur les lèvres de notre Seigneur cette parole « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Jamais nous n'aurions osé mettre une parole comme celle-là sur ses lèvres. Eh bien, jamais non plus nous n'aurions pensé que le mal, que l'erreur pouvait pénétrer ainsi à l'intérieur de l'Église. Eh bien, nous vivons cette époque. Nous ne pouvons pas fermer les yeux. Les choses sont là devant nous, elles ne dépendent pas de nous. Nous sommes témoins de ce qui se passe dans l'Église, de ce qui s'est passé d'effrayant depuis le Concile, de ces ruines qui s'accumulent de jour en jour, d'année en année, dans la Sainte Église. Et plus nous avançons, et plus les erreurs se répandent, et plus les fidèles perdent la foi catholique. Une enquête faite récemment en France disait que pratiquement, on peut penser qu'il n'y a plus que 2 millions de catholiques français qui sont encore véritablement catholiques. Alors, nous allons à la fin, tout le monde tombera dans l'hérésie, tout le monde tombera dans l'erreur, parce que des clercs, comme le disait Saint Pie X, se sont introduits à l'intérieur de l'Église et ont occupé l'Église. Ils ont répandu les erreurs à la faveur de l'autorité qu'ils occupent dans l'Église. Alors sommes-nous obligés de suivre l'erreur parce qu'elle nous vient par voie d'autorité? Pas plus que nous devons obéir à des parents qui sont indignes et qui nous demandent de faire des choses indignes, pas plus nous devons obéir à ceux qui nous demandent d'abandonner notre foi et d'abandonner toute la tradition. N'en est pas question. Oh, certes, c'est un grand mystère. Grand mystère de cette union de la divinité avec l'humanité. L'Église est divine, l'Église est humaine. Jusqu'où les défauts de l'humanité peuvent atteindre, je dirais presque, la divinité de l'Église, Dieu seul le sait, c'est un grand mystère. Mais nous, nous constatons les faits. Et nous devons nous placer devant ces faits. Et ne jamais abandonner l'Église. Et l'Église catholique et romaine, ne jamais l'abandonner. Ne jamais abandonner le successeur de Pierre. Parce que c'est par lui que nous sommes rattachés à notre Seigneur Jésus-Christ, à l'évêque de Rome, successeur de Pierre. Mais si par malheur, entraîné par je ne sais quel esprit ou quelle formation ou quelle pression qu'il subit, par négligence, il nous laisse et il nous entraîne dans des chemins qui nous font perdre la foi, eh bien, nous ne devons pas le suivre, tout en reconnaissant cependant qu'il est Pierre et que s'il parle avec le charisme de l'infaillibilité, nous devons l'accepter. Mais lorsqu'il ne parle pas avec le charisme de l'infaillibilité, il peut très bien se tromper. Hélas, ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire, peut-être à ce niveau et à ce degré. C'est la première fois que nous constatons une chose pareille dans l'histoire. Alors, nous sommes vraiment profondément troublés, profondément mortifiés. Nous qui aimons tant la Sainte Église, qui l'avons vénérée, qui la vénérons toujours. Et c'est bien pour cela que ce séminaire existe, par amour de l'Église catholique, romaine, et que tous ces séminaires existent. Nous sommes profondément meurtris dans l'amour de notre mère, de penser que ses serviteurs, hélas, ne la servent plus, ou la desservent même. Alors nous devons prier, nous devons nous sacrifier, nous devons rester comme Marie, au pied de la croix, ne pas abandonner notre Seigneur Jésus-Christ, même s'il paraît, comme dit l'Écriture, il était comme un lépreux sur la croix. Eh bien, la Vierge Marie avait la foi, et elle voyait derrière ses plaies, derrière ce cœur transpercé, elle voyait Dieu, son Fils, son divin Fils. Bien, nous aussi, à travers les plaies de l'Église, à travers les difficultés que nous subissons, à travers la persécution que nous subissons, même de ceux qui ont une autorité dans l'Église, bien, n'abandonnons pas l'Église. Aimons notre Mère, la Sainte Église, servons-la toujours, malgré les autorités, s'il le faut, s'ils nous persécutent, et bien malgré ces autorités qui nous persécutent à tort, Nous continuons notre voie, nous continuons notre chemin. Nous voulons maintenir la Sainte Église catholique et romaine. Nous voulons la continuer et nous la continuerons par le sacerdoce. Par le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, par le vrai sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, par les vrais sacrements de notre Seigneur Jésus-Christ, par son vrai catéchisme. Pourquoi, mes chers amis, aujourd'hui, voyez, comme je l'ai été ordonné moi-même, et comme ici tous les confrères qui sont d'un certain âge ont été ordonnés également, ont tous été ordonnés dans la Sainte Messe traditionnelle de toujours. Ils ont reçu le pouvoir de célébrer la Sainte Messe et le Saint Sacrifice dans ce rite romain de toujours. Rappelez-vous cela, j'ai été ordonné dans ce rite et je ne veux pas le quitter et je ne veux pas l'abandonner. C'est la messe dans laquelle j'ai été ordonné et dans laquelle je dois continuer de vivre. Et c'est vraiment la messe de l'Église catholique romaine. Alors soyez fidèles, fidèles à votre saint sacrifice de la messe qui vous donnera tant et tant de consolation, tant de joie, tant de soutien dans vos difficultés, dans vos épreuves, dans les persécutions que vous risquez de subir. Vous trouverez la force de subir avec notre Seigneur Jésus-Christ toutes ces avanies, vous les trouverez dans le saint sacrifice de la messe. Et donnant vraiment notre Seigneur Jésus-Christ, dans son corps, dans son sang, dans son âme, dans sa divinité, aux fidèles, vous donnerez aussi aux fidèles le courage de continuer à suivre l'Église dans sa tradition et à se conformer à tous les exemples des saints qui les ont précédés, qui nous ont précédés, tous ceux qui ont été canonisés, béatifiés, montrés comme exemple de sainteté dans la Sainte Église. Ceux-là continueront d'être nos modèles. Que la Vierge Marie en particulier soit notre modèle. Demandons-lui aujourd'hui de faire de vous, mes chers amis, de saints prêtres. Des prêtres comme elle les désire. Et certainement, si vous l'invoquez au cours de votre vie, elle vous protégera et fera de vous des prêtres selon le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, son divin Fils, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, mes bien chers frères, l'Église, en cette belle fête de la Pentecôte, manifeste l'action de l'Esprit Saint sur les apôtres et dans l'Écriture déjà il était dit dans les psaumes Emite spiritum tuum et creabuntur et renovabis faciem terre et c'est bien ce qui est arrivé. Par l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres, marqués par ces langues de feu qui signifiaient à la fois la lumière de la foi et le feu de la charité, le monde a été recréé, le monde a été transformé. Les apôtres eux-mêmes ont été transformés, les premiers. Peu de temps encore avant la Pentecôte, se trouvant avec notre Seigneur, avant son ascension, ils étaient préoccupés par des soucis terrestres, souhaitant que notre Seigneur rétablisse le royaume d'Israël ici-bas. En définitive, ils n'avaient pas compris. Ils étaient encore aveugles. Ils étaient encore dominés par les suites du péché originel. L'Esprit Saint ne les avait pas encore éclairés. Mais dès qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, alors ils ont compris. Et il suffit d'entendre les discours de Saint-Pierre après la Pentecôte, pour comprendre que désormais pour eux,
il n'y a plus qu'un nom qui subsiste dans leur esprit, dans leur cœur, dans le passé, dans l'avenir, Jésus. Ils prêchent Jésus-Christ. Ils sont attachés à Jésus-Christ désormais, à la vie, à la mort. Quoi qu'il arrive, désormais, on ne les empêchera plus de prêcher notre Seigneur. Emprisonnés, persécutés immédiatement par les scribes et les pharisiens, parce qu'ils prêchent le nom de Jésus. Car c'est bien cela que leur disent les scribes et les pharisiens, ne prêchez plus au nom de Jésus. Et les apôtres répondent, non possumus non loqui, nous ne pouvons pas ne pas parler. Et dès qu'ils sont libres, ils recommencent à parler, à prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, car c'est saint Pierre qui le dit aussi, il n'y a qu'un nom par lequel le salut peut être donné ici-bas, c'est le nom de Jésus. Et toute leur vie, et toute l'histoire des premiers siècles ne sera que la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ et la persécution. Le monde se révoltera, Satan suscitera des persécutions horribles contre les chrétiens parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils aiment notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils professent la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils veulent que le règne de notre Seigneur Jésus-Christ arrive. Et toute l'histoire de l'Église, depuis les apôtres, est semblable à celle des premiers siècles. Sans doute, il y a eu des siècles de paix, des siècles où vraiment notre Seigneur Jésus-Christ a régné au moins sur une grande partie du monde. Des États étaient chrétiens, les princes étaient chrétiens, les institutions étaient chrétiennes, et l'Église, au cours de ces siècles, a pu manifester sa foi en notre Seigneur Jésus-Christ, a pu poursuivre le règne de notre Seigneur Jésus-Christ comme ce règne aurait dû commencer, persévérer pendant toute l'histoire de l'humanité. Car Jésus est le roi, Jésus est le créateur de cette humanité, Jésus est le créateur du monde, Jésus est le sauveur du monde, et tous les hommes auraient dû s'incliner devant notre Seigneur, respecter sa volonté, le prier, chanter ses louanges, s'unir à lui, recevoir son corps, son sang, recevoir sa vie, vivre de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette vie a été celle des siècles de chrétienté. Mais hélas, ces siècles n'ont pas pu continuer au cours de cette histoire de l'humanité. Et voici que le démon, suscitant à nouveau des prophètes d'erreur, a bouleversé le règne de notre Seigneur. Et aujourd'hui, on peut bien le dire, ce sont les principes de Satan qui règnent. Ce sont les principes du monde qui dirige le monde, et non plus les principes de la chrétienté, les principes de notre Seigneur Jésus-Christ, le décalogue, le sermon sur la montagne. Ce n'est plus vraiment l'amour de Dieu qui est dans le cœur des hommes, mais c'est l'amour du monde, l'amour des choses ici-bas. Et alors, le monde est de nouveau dans la confusion, dans l'aveuglement, dans l'erreur. Nous devons, dans ces circonstances, retrouver la foi des apôtres, retrouver les principes qui ont dirigé les apôtres après qu'ils avaient reçu l'Esprit Saint, car nous aussi, nous avons reçu l'Esprit Saint. Nous avons eu notre Pentecôte. Nous avons eu notre Pentecôte au jour de notre baptême. Nous avons eu notre Pentecôte au jour de notre confirmation. Nous avons notre Pentecôte chaque fois que nous recevons notre Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs. Et vous, mes chers amis, vous avez eu votre Pentecôte hier, vous qui avez été fait sous-diacre, diacre, sur le chemin du sacerdoce. Et tous les sacrements nous donnent l'Esprit Saint, est une effusion de l'Esprit Saint en nous. Par conséquent, nous n'avons pas le droit de dire que les apôtres, eux, ont eu la joie et l'avantage d'avoir cette effusion du Saint-Esprit en eux, mais nous, nous ne l'avons pas eu. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous n'avons pas le droit d'échapper à cette influence. Et nous devons la recevoir telle que les apôtres l'ont reçue. Et ne pas mettre d'obstacles à cette Pentecôte en nous. Et c'est parce qu'il y a trop d'obstacles en nous que l'Esprit Saint ne veut pas manifester toute son action dans nos âmes. Si nous avions les dispositions des apôtres unis à la très sainte Vierge Marie, eh bien, les effets des dons du Saint-Esprit seraient plus grands en nous et plus grands autour de nous. Et quels sont ces effets particuliers? Le premier effet du Saint-Esprit et des dons les plus élevés du Saint-Esprit, la sagesse, l'intelligence, la science, c'est de chanter Dieu, de chanter notre Seigneur Jésus-Christ, de chanter sa gloire, de chanter sa création, de chanter sa charité, son amour pour nous. Il a donné son sang, il a donné sa vie pour nous. Comment ne chanterions-nous pas des actions de grâce incessantes, comme le dit si bien saint Paul? Quoi que vous fassiez, chantez la gloire du bon Dieu, chantez des hymnes et des cantiques. C'est bien ce que dit saint Paul, ça c'est la vie chrétienne. Et cette vie chrétienne s'est manifestée au cours des siècles. Oui, les églises et nos cathédrales ont retenti du chant des psaumes, du chant de tous ces cantiques qui manifestaient la gloire du bon Dieu, qui manifestaient l'action de grâce qui se trouvait dans les cœurs. Alors nous devons aussi avoir ces sentiments en nous, chanter la gloire du bon Dieu. Mais il ne suffit pas de chanter la gloire du bon Dieu. Pour pouvoir la chanter réellement et de manière qu'elle soit agréable à Dieu, nous devons aussi faire pénitence. Nous devons précisément chasser de nos cœurs, de nos âmes, tout ce qui est un obstacle à cet amour du bon Dieu, à cette prière de Dieu, à cette louange de Dieu. Et il y en a des obstacles en nous, hélas, toutes les suites du péché originel. Alors nous devons faire pénitence, c'est la Vierge Marie qui nous l'a dit aussi, elle l'a dit encore à Lourdes, et par conséquent c'est encore vrai de notre temps. Priez et faites pénitence, oui, c'est vraiment la vie chrétienne, c'est le résumé de la vie chrétienne. Mais encore, il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas de faire pénitence, il faut accomplir la volonté du bon Dieu. Si vous m'aimez, dit Dieu, dit notre Seigneur, observez mes commandements. Si diligitis me, mandata mea servate. Il faut observer les commandements de Dieu. Et c'est peut-être la chose la plus difficile. Prier est relativement aisé. Faire pénitence à l'occasion est encore une chose peut-être relativement facile, mais faire tous les jours, à tout instant de notre vie, la volonté du bon Dieu. Qu'il n'y ait pas dans notre vie de moment qui ne soit pas à Dieu, qui ne soit pas accompli selon la volonté de Dieu. Ça est beaucoup plus difficile. Et c'est pourtant la vie chrétienne. Si nous voulons vraiment donner notre vie à notre Seigneur Jésus-Christ, si nous voulons vraiment que notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos intelligences, il faut le prouver. C'est ce que dit notre Seigneur. Si vous m'aimez,
Prouvez-le en observant mes commandements. Et alors nous devons donner cette preuve d'amour à notre Seigneur. Nous pouvons penser réellement qu'au cours des siècles, il y a eu des millions et des millions de bonnes familles chrétiennes. Dans le silence, dans la discrétion, dans l'oubli, dans la méconnaissance de ceux peut-être qui entouraient ces familles, ces familles ont accompli leur devoir. Dans la prière, dans l'union à Dieu, dans l'amour, dans la charité, dans la foi. Et c'est de ces familles que sont sorties tant et tant et tant de vocations. Tant de vocations de prêtres, tant de vocations de religieux et de religieuses qui ont peuplé les couvents, les monastères, les œuvres de charité, les institutions de charité, qui ont couvert le monde chrétien. Toutes ces vocations sont sorties de familles profondément chrétiennes, qui ont imité la famille, la première famille chrétienne, la famille de la Sainte Vierge et de Saint Joseph. On n'a pas entendu beaucoup parler de la vie de famille de la très Sainte Vierge et de Saint Joseph. Et cependant, elle a duré 30 ans. Bien plus que la vie publique de notre Seigneur, ils ont accompli la volonté du bon Dieu. Et ainsi, ils ont été choisis pour participer aussi à la gloire de notre Seigneur. En cette période que nous vivons, où l'esprit du monde domine, et tend à dominer toutes les familles, et pénètre à l'intérieur de l'Église, pénètre à l'intérieur des séminaires, pénètre à l'intérieur de tous les couvents, de tous les monastères, de toutes les écoles catholiques, de tout le monde chrétien, détruisant ainsi peu à peu la chrétienté, les institutions chrétiennes, tout ce que l'Église a fait, tout ce que le Saint-Esprit avait réalisé par l'Église. Tout cela est investi, tout cela est envahi, tout cela est soumis à des influences mauvaises du démon. Il faut retrouver les principes de la chrétienté. Il faut revivre ces principes. Simples, qui ne sont pas difficiles. Prière, pénitence, accomplissement de la volonté du bon Dieu. Dans l'union à notre Seigneur, dans l'union au corps mystique de notre Seigneur, avec toutes les âmes qui se donnent à notre Seigneur Jésus-Christ. Et éviter l'influence des faux principes de ce monde qui se répandent partout. Le démon a inventé des principes ambigus. Et lui aussi, il sait qu'il ne faut pas trop compliquer les principes à donner pour tromper le monde, pour tromper les esprits. Alors il se sert lui aussi de formules simples, liberté, égalité, fraternité, formules ambiguës qui trompent le monde. Ces principes, il a remplacé le décalogue par les droits de l'homme. On a des formules simples, mais trompeuses, fallacieuses, qui sont faites pour contrecarrer le décalogue, pour détruire le décalogue, pour détruire l'autorité de Dieu, pour détruire les familles. Et puis il a encore inventé ces derniers temps, en plus de ces droits de l'homme, la dignité humaine. Alors au nom de la dignité humaine, on laisse la responsabilité à la conscience, chacun fait ce qu'il veut, sous prétexte de dignité humaine. Peut-être que les hommes sont adultes, que maintenant, à notre époque, tout le monde est adulte, alors qu'autrefois, on était encore dans un état d'enfance. Or, nous devons toujours nous rappeler ces principes. Il n'y a pas de droit de l'homme, il y a le décalogue. C'est-à-dire les commandements de Dieu, la soumission à l'autorité de Dieu et à notre soumission à l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de dignité humaine, il y a la dignité chrétienne. Il n'y a pas de dignité humaine, ça n'existe pas. Il n'y a de dignité que chrétienne. Dans la mesure où nous avons une relation avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dignes Dans la mesure où nous n'avons pas de relation avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes pas dignes. La meilleure preuve, c'est que ceux qui ne seront pas attachés à notre Seigneur dans le corps mystique, dans son corps mystique, n'iront pas au ciel, iront en enfer. Seuls iront au ciel ceux qui seront unis au corps mystique de notre Seigneur. C'est notre Seigneur lui-même qui l'a dit. Je suis la vigne, je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui n'est pas rattaché à moi sera jeté au feu. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Personne ne va à mon Père sans passer par moi. C'est notre Seigneur qui l'a dit. Voilà, c'est pas un pape, c'est pas l'Église, c'est pas les évêques. C'est la doctrine même de l'Église. Alors il n'y a pas de dignité humaine. C'est une dignité inventée par le diable. Il n'y a que la dignité chrétienne. Et puisque tous les hommes sont encore susceptibles de devenir chrétiens, si le bon Dieu le permet, par des circonstances particulières, par des missionnaires, par une conversion, par une grâce particulière, alors nous devons respecter ces personnes et prier pour elles, afin qu'un jour elles deviennent chrétiennes. Mais s'il était vrai qu'il y avait une dignité humaine, alors les démons seraient également dignes. Parce qu'ils ont encore l'essence angélique, ils ont l'essence humaine, donc ils seraient encore dignes. Et puis, troisième principe moderne, est celui de la liberté religieuse, où l'on met l'erreur et la vérité sur le même pied. Cela aussi est absolument contraire à l'Esprit Saint. L'Esprit est un esprit de vérité que nous recevons, et non pas l'esprit de l'erreur. L'erreur est opposée absolument à l'Esprit Saint. C'est pourquoi personne ne peut se sauver par l'erreur. Personne ne peut se sauver par une fausse religion. Une fausse religion, c'est une religion erronée. Une religion qui est dans l'erreur, qui est donc opposée à la vérité de l'Esprit Saint. Comment les âmes pourraient se sauver par l'erreur? Elles ne peuvent pas se sauver par l'erreur. Elles ne peuvent se sauver que par la vérité. Or, ce sont des principes maintenant, ces principes des droits de l'homme, ces principes de la dignité humaine, ces principes de la liberté religieuse, où toutes les religions sont mises sur le même pied, il n'y a plus de fausse religion. Tous ces gens sont des frères séparés, sont des frères. Tout cela est faux. Ce sont des principes diaboliques, qui ne sont pas conformes à la vérité de l'Esprit Saint. Alors nous ne devons pas les accepter, et nous devons les repousser, et nous devons prêcher l'évangile véritable, et non pas ce faux évangile de la Révolution, ce faux évangile du protestantisme et de ceux qui ont répandu les erreurs, afin de tromper les âmes et de les entraîner en enfer. Voilà ce que nous devons prendre comme résolution. Ne pas nous laisser influencer par ces principes qui sont actuellement diffus, même à l'intérieur de l'Église, et dont trop souvent, même les évêques et dans les documents même romains, nous trouvons des allusions constantes à ces divers principes. Sans doute, on les corrige, on y met une certaine atténuation. Mais le seul fait de les utiliser semble leur donner une certaine authenticité, une valeur véritable. Et cela qui est dangereux, même si on les corrige. On ne peut pas se servir des principes qui ont été inventés par le diable et qui sont foncièrement faux. Alors demandons aujourd'hui à l'Esprit Saint de nous donner cette lumière de la vérité qui doit toujours éclairer nos âmes. Demandons-lui de nous donner ses dons de sagesse, d'intelligence, de science, afin d'éclairer nos âmes et nos esprits et de n'avoir dans nos cœurs que le désir de servir la vérité, de servir notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons aussi à la Très Sainte Vierge Marie de nous aider à vivre comme elle a vécu, dans la prière, dans le renoncement et dans l'accomplissement de la volonté du bon Dieu. Alors nous serons vraiment des enfants de Dieu et nous serons remplis comme elle du Saint-Esprit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.